Se vê novo.
De torcer muito agora,
Bien, d'accord. Alors, on nous dit ici que Yitzhak, Vayecherad Yitzhak Harada Gdola. Yitzhak a eu une peur énorme. On traduit très justement un effroi extrême. Alors la question évidemment va être de savoir qu'est-ce qui a effrayé Yitzhak. Alors le Midrash, comme toujours, il commence avec un passouk, en l'occurrence ici un passouk de Michelet. Un passouk de Michelet qui justement parle d'une notion de harada, d'effroi, et il dit que Herdat Adam iten mokesh ou bokteach bashem yisgav. L'effroi d'un homme donne un piège, et la confiance en Hachem permettra à celui qui a cette confiance de surmonter, de pas tomber dans le piège. Yesugav, et voilà, lui il sera sauvé, il sera sauf. Ça c'est le verset de Michelet. Donc, d'un côté, la harada, l'effroi d'un homme, quand un homme est effrayé, alors c'est un piège. Alors il faut la comprendre en quoi est-ce que c'est un piège. Mais l'opposé de être effrayé, c'est avoir confiance en Hachem. Donc la confiance en Hachem, c'est ce qui permet de ne pas être effrayé, même de quelque chose qui est effroyablement effrayant. La confiance en Hachem nous permet d'être sauvés de ce qui nous faisait tellement peur. OK. Alors, comme toujours, les Chachamim, ce verset-là, ils l'ont appliqué à une situation qui parle aussi d'une frayeur d'un homme. Celui qui a été effrayé, c'est Boaz. Et Boaz a été effrayé parce que quand il s'est réveillé, il y avait une femme dans son lit. Cette femme, c'était Ruth. Ruth était là parce que Naomi lui avait dit de le faire. Boaz était le chef du Beth Din. Donc c'était quelqu'un de très important. C'était un grand vieillard. Il va mourir très vite après. Un super sadique, il se retrouve avec une jeune femme qu'il ne connaît pas dans sa couche. Et alors le verset qui parle de cela, c'est Vayecherad Ha'ish Vayil Lafet. L'homme a eu une harada, veille la fête et il s'est penché Iten Mokesh. Si on continue d'appliquer le verset à la situation, c'était un piège. Le piège aurait été de faire la chose logique, à savoir de maudire cette femme. Qu'est-ce que va-t'en? Qu'est-ce que tu fais chez moi? Bedinaya, le cas est là. Logiquement, il aurait dû la maudire, cette femme. Mais Boaz a en quelque sorte appliqué à lui-même la fin du verset, Boteach b'Hashem yisugav. Il a été Boteach b'Hashem. Il a eu confiance en Hashem. Et le Midrash dit, Nathan Belibo. Nathan Belibo. Littéralement, d'habitude, ça veut dire il a pris la chose à cœur. C'est-à-dire, probablement, il faut entendre ici, Boaz a compris que ce n'était pas un hasard. Une jeune femme ne vient pas dans le lit d'un grand vieillard comme ça, comme Boaz, respecté, etc. C'est pas n'importe quoi. Et donc il a pris ça à cœur, il s'est dit, il faut que je vois ce qui se passe, il faut que je comprenne qu'il se passe quelque chose de très important. Et finalement, il a fait le contraire de ce qu'il aurait pu faire s'il était tombé dans le piège, en quelque sorte. Au lieu de la maudire, il l'a béni. Et il lui a dit, sois béni aux yeux d'Hachem, ma fille.
Donc, comme Midrash saute un verset, verset où Ruth explique pourquoi l'air.
Oui, mais en fait, si on regarde, il y a un verset, je ne sais pas qu'est-ce qu'il dit dans le verset. Tu as le verset 9. Le verset, tu as le 3-8, c'est le verset, l'homme eut une frayeur et se pencha. Et puis le verset 9, lui a demandé, qui es-tu? Elle a dit, je suis Ruth, ta servante. Étends le pan de ton manteau sur ta servante, car tu as droit de rachat. Donc elle lui a expliqué
Ça dit bon.
qu'il y a une forme de hiboum, c'est une forme, disons, étendue de hiboum. Par le biais des biens matériels, des biens, des champs, des biens immobiliers. Avec les biens immobiliers, il y avait une possibilité de s'occuper d'elle. Bien qu'en réalité, tout ça, c'est très, très tiré par les cheveux dans la mesure où Ruth, en fait, a priori, on considère que Ruth n'était pas convertie quand elle s'est mariée. Donc le mariage avec le fils d'Élimélec et le fils de Naomi n'était pas un mariage reconnu par la Torah. Puisqu'on dit que la conversion, c'est quand elle a dit à Ruth, quand elle a dit à Naomi, ton peuple sera mon peuple et là où tu es, etc. Donc, c'est bien après. En tout cas, il l'a béni. Alors, c'est vrai qu'elle a donné des explications, mais du coup, il l'a béni. Il dit, sois béni aux yeux d'Hachem. Comme on a déjà vu, quand quelqu'un donne une bénédiction, ce n'est pas lui qui bénit, c'est qu'il demande à Hachem de bénir. Comme les Kohanim, ils mettent le Shem Hachem sur le clan d'Israël et c'est Hachem qui bénit. Vani Avarchem. Donc ça, c'est ce que le Midrash a interprété. Il a mis en scène, en quelque sorte, le verset de Michelet dans la situation de Boaz et Ruth. Et sur le modèle de cette mise en scène, notre Midrash à nous, ici, maintenant, il va expliquer la situation où c'est Yitzhak qui a l'effroi extrême. Donc c'est Yitzhak qui joue le rôle de Boaz. C'est Yaakov qui joue le rôle de Ruth. On peut même dire que c'est Naomi qui joue le rôle de Rivka. C'est Rivka qui a poussé Yaakov d'aller là-bas, dans cette situation. Ce qu'il n'y a pas, c'est qu'il n'y a pas d'Essav dans la situation de Boaz. C'est vrai qu'il y a là-bas quelqu'un qu'on appelle Ploni-Almoni, celui qui ne voulait pas épouser Ruth, parce que justement, comme Ruth était d'origine moabite et qu'on venait de décider que la dracha qui est écrite dans la Torah, que on n'acceptera pas les gens de Moab s'ils viennent à se convertir, on ne les accepte pas parce que parce qu'ils ne sont pas venus à votre rencontre avec du pain et de l'eau quand vous étiez dans le désert, ce qui est complètement en dessous de tout, parce que c'est une règle dans le désert que c'est comme ça qu'on se conduit. Et donc ne pas se conduire comme ça, c'est vraiment être un vrai chien, quoi. Même les chiens ne sont pas comme ça. Ils sont pas aussi méchants, aussi mauvais. Et là, on venait de décider. Dans le Beth Din de Boaz, on venait de décider que seuls les hommes seraient affectés par cela, parce que on a réfléchi que qui est-ce qui aurait dû aller à la rencontre des Bnei Israël? On n'envoie pas les femmes à la rencontre d'un peuple qu'on connaît ni d'Ève ni d'Adam, etc. On envoie les hommes. Et donc ce sont les hommes qui ne sont pas allés, c'est eux qui sont fautifs, c'est eux qu'on n'acceptera jamais. Donc on a décidé d'accepter les femmes de Moab. Et à la limite, probablement que la première femme de Moab qu'on a acceptée suite à ces décisions rabbiniques, c'est Ruth. Et donc le Ploni dit, moi, les gens, ils connaissent pas encore cette halakha. Si moi maintenant je me marie avec cette Ruth, ça va faire une mauvaise réputation à mes enfants, j'arriverai pas à marier mes enfants. Ergo, je la prends pas. Alors Boaz, bon, lui, il n'avait pas de problème, il avait probablement déjà marié tout le monde, c'était un grand vieillard. Donc c'est vrai que de ce point de vue-là, il risquait pas. Mais que, à part ça, Boaz, il l'aurait peut-être fait de toute manière, même s'il avait eu des enfants à marier. Parce que lui, il était dans le Beth Din qui a décidé, donc il n'avait pas de doute. Et alors le Midrash va l'appliquer et elle dit comme ça. Comme on avait dit, l'effroi que Ruth causa à Boaz, on dit maintenant l'effroi que Yaakov causa à Yitzhak. Il aurait eu le droit de la maudire, de maudire Ruth, Boaz. Ici aussi, Yitzhak aurait eu le droit de maudire Yaakov qui l'avait trompé. Mais la fin du verset dit que tout celui qui garde confiance en Hachem sera sauf. Hachem a fait que de la même manière que Boaz a béni Ruth, Yitzhak a béni Yaakov. Boaz, il a inventé une bénédiction, sois béni aux yeux d'Hachem. ma fille. Yitzhak n'a pas donné à Yaakov une nouvelle bénédiction. Il a validé la bénédiction qu'il lui avait donnée par erreur. Il lui a dit Gam Baruch yeh. C'est-à-dire, malgré ce qui s'est passé, qu'il reçoit la bracha que je lui ai donnée, qui évidemment n'avait aucune valeur, puisque c'est une bracha que j'ai donnée par erreur. Donc, en fait, quand il lui a donné la bracha, on n'avait rien gagné du tout, en fait. C'était surtout qu'il avait pris la bracha des Saves, mais lui, il avait en vérité encore rien du tout. Parce qu'une bracha que tu as eue, mais qui n'était pas adressée à toi, elle ne vaut rien. Mais Yitzhak a dit, Gam Baruch yeh, c'est-à-dire, je valide maintenant rétroactivement la bracha que je lui ai donnée. Comme si maintenant je comprends que cette bracha qui est allée à lui, maintenant je veux effectivement qu'elle aille à lui. Mais maintenant je le veux. Avant, je ne voulais pas qu'elle aille à lui. Je voulais qu'elle aille à Essav. Si vous voulez, c'est un processus de tshuva. On revient sur quelque chose et on le relit, on le réécrit différemment.
Comprends, et calme, est consciente qu'une bracha qui n'était pas destinée, elle n'aurait pas d'effet. Malgré tout, elle a
Elle voulait surtout peut-être que la bracha n'aille pas à Essav. Ça, elle l'a obtenue, parce qu'elle est occupée, la bracha. Elle a été prise. C'est comme ça que je comprends les choses, quoi. Peut-être on peut comprendre autrement, mais pour l'instant, c'est comme ça que je comprends la chose. Ou bien peut-être qu'elle a pensé que quand Yitzhak comprendra ce qui s'est passé, elle a peut-être. Elle a vu à l'avance, peut-être comme ne voit, qu'il allait changer d'avis et qu'il allait redonner la bracha. Cette fois-ci volontairement. Alors, ce qui est intéressant, c'est la confiance en Hachem dont on parle ici. Et alors, on dit que celui qui garde confiance en Hachem sera sauf. Mais qui était en danger là? Qui aurait été en danger? En danger de Klala, c'était Ruth ou bien Yaakov. Mais en danger d'être Mekalel, quelqu'un qui ne fallait pas être Mekalel, c'est Yitzhak et Boaz. S'ils avaient été Mekalel, ce que, comme dit le Midrash, Bedin, logiquement, il aurait dû le maudire. Mais c'est là qu'il y avait un piège. Le piège, ça aurait été de maudire. Et donc, il est sauf, il n'est pas tombé dans le piège. Il n'a pas maudit. Ni Boaz, ni Yaakov, ni Israël. Je crois que c'est de ça qu'il s'agit. En d'autres termes, il arrive quelque chose d'assez énorme, et on comprend bien que c'est ce que Midrash veut dire, Bedin, quand il dit Bedin, il aurait dû le maudire. Ça veut dire que il n'y a pas l'ombre d'un doute qu'il faut maudire dans ce cas-là. Dans ce cas, tu me voles, ou là, tu mets dans ma couche, là, qu'est-ce que tu veux de moi, quoi? Alors, c'est marqué sur Boaz, c'est marqué que Iten Nathan Belibo. Ça, c'est pas dit sur. On dit pas ça sur Yitzhak. Il n'est pas dit que Yitzhak a compris quelque chose ou qu'il a pris la chose très au sérieux. Si vous regardez à la page 90, dans le numéro 3, il y a l'opinion de Rav Yitzhak, qui dit que son père allait le maudire. Quand Hachem est intervenu et il a dit à Yitzhak, prends garde, si tu le maudis, c'est toi-même que tu maudiras. Pourquoi? Parce que toi-même tu as dit, ceux qui te maudissent seront maudits. Donc si toi tu le maudis, ceux qui te maudissent seront maudits, et Yitzhak l'a dit à Yaakov. Donc si maintenant Yitzhak maudit Yaakov, il va être maudit. Mais en fait, on pourrait discuter ça parce que quand il lui a dit cela maintenant, quand il lui a dit, ben ça fait partie de tout ce qu'il lui a dit, mais qui n'était pas du tout destiné à lui. Donc, c'est pas valable. Ça, c'est quelque chose qui, quand il a dit la bénédiction qu'il a donnée à Yaakov, et il savait pas que c'était Yaakov, et il pensait qu'il le donnait à Esav. Donc, il n'y a pas d'enseignement qui dit que, à ce moment-là, que si quelqu'un maudit Yaakov, il sera maudit. C'est pas vrai. Peut-être que le problème, c'est Hachem lui a dit, à la fin des choses, tu vas prendre conscience que c'était bien quand même, et donc tu vas valider la bracha. Quand tu valides la bracha, tu vas faire tomber la klala sur toi. En ce moment, tu vas valider aussi que ceux qui te maudissent soient maudits. OK. Donc, sur Boaz, c'est marqué Mefourache que Nathan est libo. Nathan Belibo, il a réfléchi. Et cette réflexion-là, elle a entraîné qu'il a béni, mais semble-t-il tout de suite, il l'a béni, c'est le verset d'après. Elle a essayé d'un peu expliquer et tout de suite, il l'a béni. Quand il a compris Yitzhak, alors il a béni Yaakov. Boaz, il a dû réfléchir que ce qu'il arrivait là, il n'a pas compris ce qui se passait. Il a seulement compris que c'était Hachem qui avait tiré des ficelles pour que cette situation existe, mais il y a pas de contentieux entre Boaz et ni entre Boaz et Ruth, même pas entre Boaz et Naomi. Par contre, Yitzhak, il a un problème avec Yaakov, c'est que il lui donne pas à lui la bracha. On avait vu plus haut qu'éventuellement Yaakov pouvait considérer que Yitzhak lui a fait du mal quelque part, que Yitzhak, en ne lui donnant pas la bracha, c'est comme s'il lui avait donné le contraire d'une bracha. Alors, ce n'est pas vrai du tout, mais c'était peut-être le ressenti de Yaakov. Vous avez un frère qui reçoit une bracha et pas vous. En plus, si vous vous dites que finalement il a reçu cette bracha parce qu'il est l'aîné, or il me l'a vendue, c'est à moi qu'elle aurait dû revenir, cette bracha. Donc ça, c'est le premier morceau du Midrash. Il y a une suite avec plein d'interventions à ce sujet-là. On reprend les termes de Yitzhak Avinu quand il prend conscience et ça va devant lui. Et à la limite, il ne s'est encore rien passé. Seulement, il voit que Ésaü arrive et lui a préparé à manger. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, mi, info. Donc, qui donc est-il? Lui qui chasse le gibier me l'a apporté. Le premier, là. Il s'est présenté comme quelqu'un qui m'a présenté du gibier qu'il a chassé, et je l'ai mangé d'ailleurs. Donc il y a une question, mais comment il a pu savoir? Comment il a pu savoir que j'ai envoyé Essav chasser? C'était quelque chose qu'il a dit en privé à Essav. Comment celui-là, il a pu apporter le gibier? Alors, premièrement, il faut, ça c'est un problème de cuisine, hein, c'est qu'il faut comprendre que Rivka, elle a pu préparer un agneau qui n'est pas a priori du gibier, de telle sorte que Yitzhak pense qu'il mange du gibier. Et comme Yitzhak était habitué à manger du gibier, puisque Essav lui en amenait beaucoup. C'est étonnant, mais c'est pas étonnant. Ça veut dire que il y a donc une façon de préparer un agneau de telle sorte qu'on le prenne pour du gibier. Bon, moi, je n'y connais rien. Dans l'idée, comme ça me surprend un peu. Mais bon, là, il faudrait avoir un expert en cuisine pour savoir. Justement, il a un goût caractéristique d'agneau, et donc c'est difficile de le faire passer pour du gibier. Non seulement on ne le prépare pas de la même manière, mais et probablement que ce n'est pas la même viande, mais en plus il a un goût. Donc tout ça, il a fallu couvrir. Donc Rivka, elle a préparé quelque chose qui couvrait tout et qui ajoutait un parfum enfin un goût de gibier à ce qu'elle avait préparé. C'était non seulement une grande bonne femme, mais aussi une cuisinière émérite. Je ne sais pas si ça existe, si on peut faire ça vraiment. Est-ce que ça peut tromper un connaisseur? Qu'on puisse me tromper moi, par exemple, c'est possible, mais tromper un connaisseur, je ne sais pas, et Yitzhak était un connaisseur, visiblement. En tout cas, il demande, ils ont traduit qui donc? Mais en fait, ce qu'il a dit, c'est Mihuze. C'est-à-dire, en fait, il faut dire comme ça que il a dit Efo. Efo, c'est ça veut plutôt dire où. C'est-à-dire où est-il plutôt que qui donc est-il. Lui qui chasse le gibier me l'a apporté. Ça, c'est le pasouk. Alors, Rabbi Brahma Bar Hanina, on a dit qu'il avait une charada gdola ad meod, grande jusqu'à très grande. Alors, qu'est-ce qu'on veut dire par là? Pourquoi est-ce qu'on insiste? Et quelle est la mesure de cet effroi de Yitzhak? Yitzhak est quelqu'un qui s'y connaissait en effroi. Parce que lui, il vient et dit, Rabbanina, le Rav Rama, il dit pire que la peur qu'il avait éprouvée sur l'autel. Au moment d'Akelat Yitzhak était sur le Mizbéach, et son père était en train de l'égorger. Alors, Abraham dit, c'est sûr que Yitzhak a dû avoir une peur bleue. Peut-être le summum de la peur. Eh bien, il dit aussi, comme dans la Torah, c'est pas marqué du tout. C'est rien marqué du tout sur cette peur. Alors qu'ici, c'est marqué Charada Gdola Admeod. Ça veut dire qu'elle était pire. Il a eu plus peur que ce qu'il avait éprouvé quand il était sur le Misber. Et il a pensé tout de suite à Rivka, la mère de Yaakov. Et il a demandé, bien qu'il a compris que c'était elle. Néanmoins, il demande, qui s'interpose entre le ciel et moi? De telle sorte que Yaakov reçoive les brachot. Prenne les brachot, pardon. Clapé Rivka, Amaro. Évidemment, il a dit ça en pensant à Rivka. Il a compris que Rivka s'est mise. La description de la situation est intéressante. Il a compris que Rivka s'est mise entre Hachem et lui, entre Hachem et Yitzhak. Rivka s'est mis au milieu. Ça veut dire, elle a empêché, elle n'a pas empêché que les brachot soient donnés. Les brachot ont été émises par Hachem. Si elle n'avait pas été là, elle serait arrivée à Esav, elle serait arrivée à Yaakov, à Yitzhak pour les donner à Esav. Elle s'est mise là. Donc les brachot ne sont pas arrivées à Essav pour les donner à Essav, à Yitzhak pour les donner à Essav, elles sont arrivées à Yitzhak pour les donner à Yaakov. Alors c'est un peu curieux, ça veut dire que c'est pas que Rivka a empêché que Yitzhak reçoive les brachot qu'il a demandé. Il a demandé à Hachem de l'envoyer des brachot pour Iten, Hachem. Donc, Iten, Hachem. Que Hachem, Viten, Kim, Mishmane Aretz. Elle n'a pas empêché que la bracha arrive chez Yitzhak. Mais elle s'est mise entre le ciel et moi pour que Yaakov reçoive les bénédictions. C'est drôle comme description. Parce que si on entend, elle s'est mise entre le ciel et moi, bah, ça veut dire qu'elle aurait empêché que les brachot arrivent d'Hachem vers Yitzhak. Or, il dit bien, c'est pas ça qu'elle a fait. Elle s'est mise entre le ciel et moi, et du coup, c'est moi qui n'ai pas pu faire ce que je voulais faire. Mais pourquoi pour cela fallait-il qu'elle se mette entre le ciel et Yitzhak. Pour dire, elle s'est mise en travers du projet d'Yitzhak. Mais qu'est-ce que ça veut dire qu'elle s'est mise entre le ciel et Yitzhak? Non, mais c'est lui qui dit. Qui est-ce qui dit ça? C'est... Pardon? Il pense à Rebecca, la mère de Yaakov. Et en pensant, il pense, qui est-ce qui s'est mis? Alors le Midrash dit, Klapé Rivka, Amaro. En vérité, dans le Midrash, c'est pas marqué que c'était sa mère. Mais on sait bien que Rivka est la mère. C'est eux qui ont ajouté sa mère dans la traduction. Lui pense à Rivka, mais c'est très bien. C'est Rivka. Pour lui, c'est pour ça qu'ils ont ajouté la mère pour qu'on comprenne qu'elle a fait quelque chose en tant que mère et pas en tant qu'épouse. C'est pas en tant qu'épouse d'Ésaü qu'elle s'est mise entre les deux. Elle s'est mise en tant que la mère de Yaakov. Elle s'est mise entre Hachem et Yitzhak. Mais on n'arrive pas bien à comprendre comment, à partir de cette situation-là, entre Hachem et Yitzhak, c'est ça qui va faire que les brachot vont arriver chez Yaakov. Alors, c'est quoi comme processus? C'est un filtre, ça veut dire quoi là? C'est comme si, en fait, la présence de Rivka a fait en sorte que est-ce que Yitzhak, la bracha qu'il a reçue, il ne pouvait pas la donner à quelqu'un d'autre qu'à Yaakov. C'est ça, sa présence. Elle a modifié, je sais pas quoi, ce qu'Hachem avait donné en direction de Yitzhak, de telle sorte qu'il ne puisse pas en faire autre chose que de la donner à Yaakov. Est-ce qu'on a une image physique? C'est comme si elle avait filtré. Ça veut dire, j'arriverai à le comprendre en disant que c'est un filtre si j'ajoute ce que je vous ai déjà dit il y a une ou deux séances, que, à mon avis, quand Yitzhak donne la bracha à Esav, il ne la donne pas à Esav tout seul. Il la donne à Esav parce que dans son projet, c'est Esav qui est celui qui va s'occuper de l'intendance. Mais il s'occupe de l'intendance pour le duo, pour le travail qui est fait ensemble. Dans l'esprit de Yitzhak, c'est ça le problème. Lui, il pense que Esav et Yaakov vont travailler ensemble. Et que comme ils ont des qualités différentes, alors Yitzhak sera Yoshev Ohalim, et Esav sera le ministre des Affaires étrangères, de faire rayonner l'enseignement, etc., même éventuellement obliger les gens, etc. Et Yaakov va développer la Torah. Ça, c'est ce que pensait Yitzhak, et si c'est comme ça, alors effectivement, la bracha que Hachem donne à Yitzhak, c'est une bracha que Yitzhak va déposer particulièrement chez Esav, mais dans l'idée que cette bracha, elle va bénéficier aussi à Yaakov. Si c'est comme ça, alors on comprend que Rivka soit mise au milieu, et Rivka, elle n'a pas laissé passer le côté Esav. Il y avait un côté Yaakov, elle a laissé passer que ce côté-là. Comme un filtre. Elle a filtré la destination. Il y avait une destination majoritaire vers Esav, mais, ou peut-être entièrement vers Esav, mais pour qu'il en fasse bénéficier aussi Yaakov. Et donc, il y avait du pour Yaakov aussi dans ce qu'Hachem a donné, et Rivka l'a filtré. Elle n'a pas laissé passer ce qu'il voulait donner à Esav parce qu'elle pensait que Esav le garderait pour lui, que lui, il n'était pas prêt à partager. Et alors, du coup, on pourrait même essayer de comprendre, d'après ça, pourquoi Yaakov, quand il rencontre Ésaü, pourquoi il lui donne tous ces cadeaux. Il donne tous ces cadeaux matériels, parce qu'il dit, mais j'ai reçu aussi ce qui est que toi tu aurais dû recevoir. Mais toi, tu aurais tout gardé pour toi. Moi, je ne veux pas tout garder pour moi. J'ai assez, j'ai exactement tout ce dont j'ai besoin pour jouer mon rôle. Alors je te donne. Et venant de moi, peut-être tu ne pourras pas en faire tout le mal que tu voudrais en faire contre moi, finalement. Et peut-être que la faute de Jacob à ce moment-là, c'est uniquement d'avoir installé Esav comme mon seigneur. Il devrait lui donner. Moi, je te donne. C'est moi, Yaakov, je te donne. Bon, ça c'est ce que je pense maintenant. On va essayer d'expliquer un peu les choses. Rabbi Yochanan dit, on ne comprend pas. Quiconque a deux fils, est-ce qu'il s'effraie quand l'un sort et l'autre entre? Pourquoi? Parce qu'il fait référence à quoi? Il fait référence à ce que ce qu'on a vu déjà. Vous vous souvenez dans le chapitre précédent, au numéro 5, à la page 87. Alors, sur le verset qui dit, et cependant, Jacob sortit de chez son père, c'est-à-dire au moment même où Jacob sort de chez son père, Ésaü, son frère, revient de la chasse, et on dit, ils ne se sont pas croisés parce que le vestibule de notre père était ouvert des deux côtés. Le côté par lequel Yaakov est sorti, ce n'est pas le même côté que le côté par lequel Ésaü est entré. Et donc, c'est ça l'idée. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, il y en a un qui sort et un qui sort et au même moment, quasiment, il y en a un qui entre. Et c'est ce que dit. C'est ce que dit le Rav Yochanan. Est-ce qu'il y a lieu de s'effrayer quand un enfant sort et l'autre entre? C'est-à-dire qu'il a, ça veut dire que pour Rav Yochanan, il s'est effrayé, il s'est pas même effrayé au moment de manger, au moment de. Non, mais dès qu'il a vu arriver Ésaü, il s'est effrayé parce qu'il a tout compris. Il a vu arriver Ésaü avec le plat. Il s'est dit, mais c'est pas possible. Quelqu'un m'a déjà donné à manger. Il va dire après, j'ai mangé le tout. Alors il faut dire que c'est pas possible que il s'est passé quelque chose d'effrayant. Le fait que un entre et l'autre sort, c'est pas effrayant en soi. C'est que quand Ésaü est entré, le Gehinnom est entré avec lui. Je crois que Rashi là-bas dit qu'il a vu que le Gehinnom était sous ses pieds. Bien.
La prière d'Israël, bien justement, parce qu'il a senti qu'il y avait
Oui.
des hommes sous
Sous ses pieds. Et là, ils disent que C'est entré, que le Guéhinnom est entré avec Ésav. Pour ça, ils ont traduit. Ce qui est écrit effectivement chez nous dans le Midrash, c'est écrit que Beshaach Enichnas Esav Etzel Aviv, Nichnesa Imo Geinom. Et c'est ça qui a effrayé Yaakov, Yitzhak. Yitzhak était effrayé parce que il voit le Guéhinnom. Et donc, il comprend que quand Ésav entre, le Guéhinnom, que Ésav a un lien avec le Guéhinnom. Ici, ça veut, sinon, on devrait plutôt dire comme on l'avait vu dans a priori dans le Rashi. Et savent que Yitzhak s'est aperçu que ce qu'il était en train de faire, ça, c'était en train d'ouvrir le Guéhinnom. Si le Guéhinnom entre ici, ça veut dire que il va installer le Guéhinnom dans la maison d'Yitzhak. Donc Yitzhak va être pris dans ce Guéhinnom. Et c'est ça qu'il a... C'est ça qui l'a effrayé. Intéressant parce que quand Jacob est entré, il y a eu un parfum de Gan Eden. Et quand Ésav entre, il y a le Guéhinnom qui vient.
Surtout qu'il comprend qu'il a été guidé par ça.
C'est ça, mais il comprend que c'est très grave. Que Ésav, c'est quasiment la cause du Guéhinnom qui arrive là. Quelque part, les descendants d'Ésav, ils vont nous faire le Guéhinnom sur terre, quoi. Rav Nathan dit au nom de Rav Acha, les murs de la maison se mirent à trembler. Il n'y a pas que lui qui est effrayé, quoi. Même les murs de la maison tremblent. Ça veut dire la maison n'est pas détruite, mais elle est très, très éprouvée, quoi. Ça tremble. C'est-à-dire que normalement, une maison, c'est un refuge, un endroit où on est chez soi, où on est à l'abri. Bien, tout à coup, cet abri, il est devenu très fragile par rapport à Essam. Alors ensuite, le Midrash dit quelque chose de, qui est en fait, eux, ils le présentent comme un jeu de mots. Ce mot de effort, qui en hébreu moderne veut dire où, je vous ai dit, mais justement, quand on dit que les murs ont tremblé, dit Adaou des... Adaou de ou Amar, où est-ce qu'on voit que les murs ont tremblé? Parce qu'il a dit mi et faux. qui est faux. Ce mot défaut, il est étrange, il est. Alors, il sonne, effo, ça sonne comme afouille. Et afouille, ça veut dire, en fait, exactement, ça veut dire boulanger. Ça veut dire cuire comme cuire du pain. Afia. Donc, c'est. Miouze chez Ouatid, les Afotkan. Il a compris que le guéhinnom, il va chauffer tout ça. Et il se demande qui est-ce qui va être boulanger. J'utilise ça pour dire que ce n'est pas la cuisson ordinaire, c'est la cuisson du pain. Ne sais pas si le verbe existe encore. S'il n'existe pas, je le fais ressusciter pour les besoins de la cause. Ani Omni Yaakov. Essav, c'est lui qui amène le feu. Donc c'est lui qui va brûler, c'est lui qui va cuire. Il va faire cuire, disons-les. Mais qu'est-ce qu'il veut cuire, Essav? Est-ce qu'il veut me cuire moi ou est-ce qu'il veut cuire mon fils Yaakov? Amar lo Akadosh Baruch Hu lui a dit, Lo at velo bincha, ni toi, ni ton fils. Elahu Asad Saïd. Qui est-ce qui va cuire? Ben justement lui. Le chasseur. Ouatsad Saïd. Amar Rabbi Elazar Rab Shimon. Sayada. Ech Sadouk. Sadouk. Pachor Taraya. Ech Tirach. Pachour ou Mekalak, Adaoudirtiv, un autre passouk dans Michelet, Lo Yacharoch, Primiya, Sedo. Dans ce verset-là, les Rabbanan l'interprètent en disant, Lo yacher velo yarich HaKadosh Baruch Hu le Ramaï ou le Sedo. HaKadosh Baruch Hu ne va pas tarder, il ne va pas être longanime par rapport au roublard et à sa, et sa chasse, le fait qu'il est chassé. Et Rabbi Eliezer, Beno, chez Rabbi Yossi Aglili Omer, Baou lo yacharoch, on en parlait plus haut, c'est lo yarich hakadosh baruch hu le ramay ou le sedo. Est-ce que c'est de ça qu'il s'agit, comme tu viens de le dire? De Amar Rabbi Yoshua ben Levi, kolotu ayom aya esav sad tzvayim vechoftan. Toute la journée, Esav avait chassé des gazelles, des biches. Et les avait entravés au malach ba, au matiran. Mais il y a un malach qui est venu et qui les a libérés. Ve'ofot, ou mesarsechan, il a chassé des oiseaux et lui aussi il les a bloqués. Malach est venu et qui les a, leur a permis de s'envoler. Ve'kolkach lama, et pourquoi est-ce que le. Il y a une implication pareille. Vehon Adam Yakar Harutz, Kedesh Yavo Yaakov, Shehu Yekaro Shelolam, Vitol Etabrachot, Shemeikar Haolam Harutzot. Alors, ici c'est un long morceau que Il dit comme ça. On répète maintenant sur la partie, lui qui chasse le gibier. D'accord? Comme Yitzhak l'a dit. Efo. D'accord? Où est-ce qu'il est? C'est-à-dire, qui est-ce? Chez Ouati. Pardon. Oui, c'est ça. Qui chasse le gibier, il a dit au départ. Il a dit ni ton fils, ni toi, mais lui qui chasse le gibier. Alors, sur cette dernière partie, Rabbi Elazar Rabbi Shimon a dit, toi, le chasseur, ils t'ont bien attrapé. Toi, tu croyais attraper les choses. Toi qui brises les portes, vois comme ta porte est défoncée. Parce qu'il amène un autre passouk, donc toujours de Michelet. Il ne rôtit pas le fourbe, son gibier. Ça veut dire, il n'aura pas de sursis. Peut-être que ça veut dire que s'il avait rôti le gibier, ça prend plus de temps. Le griller, ça va plus vite. Rôtir, ça prend du temps. Griller, c'est plus rapidement mangeable. Donc, il n'a pas le temps de rôtir. Et donc, ça veut dire qu'il n'aura pas de sursis. Il n'y aura pas de temps où les choses peuvent changer. Akadosh Baruch Hu n'accorde aucun délai, ni au voleur, ni à sa proie. Abenezer, le fils de Rabbi Yossi Aglili, il dit, il n'y aura pas de sursis. Akadosh Baruch Hu n'accorde aucun délai, ni au lard, ni à sa proie. Il a l'air de dire exactement la même chose que les rabbis, comme ils disent. Ça veut dire que, probablement que Abenezer, il vient d'ailleurs, lui, c'est peut-être un Galiléen, et les autres, ils étaient dans la région de Jérusalem. Et lui aussi, il est arrivé à la conclusion que Hachem ne lui accordera aucun délai. Et Rabbi Yehoshua ben Lévi, il dit que, effectivement, Essav avait capturé des gazelles le jour. Ils avaient entravé, c'est-à-dire ils avaient préparé. Mais un ange vient les libérer. Tout ce qu'il avait préparé n'a pas marché. Et s'il a mutilé des oiseaux pour les empêcher de voler, un ange les a fait s'envoler. Mais pourquoi est-ce que le monde, pourquoi les malachim se sont tellement impliqués dans toute cette histoire? C'est parce qu'effectivement, juste après, dans Michelet, il y a juste après ce qu'on vient de voir, un passouk qui dit, la richesse de l'homme est précieuse, mais à condition que l'homme soit un homme honnête. Et donc, ça veut dire ici que Yaakov, qui est le principe du monde, c'est-à-dire l'honnêteté, le hémet. Il est important qu'il ait de la richesse. Donc il faut qu'il reçoive les bénédictions qui amèneront la richesse. Ça qu'on veut dire, c'est que c'est absolument nécessaire qu'il soit riche. Et pourquoi? Alors, Rav Hanina Bar Papa demanda à Rav Acha, mais quel est le sens de ce verset-là, de Michelet? Alors, il m'a dit, il est convenu que les justes ne jouiront pas en ce monde-ci de la splendeur du monde qui vient. Ils disent que c'est tout des jeux de mots. Ça veut dire que les justes, en fait, ce qu'on aurait pu penser, c'est que les tzadikim, les justes en question, ils n'ont pas besoin de la richesse de ce monde, parce qu'ils auront en quelque sorte une avance de ce qui les attend dans Olam Haba. Et donc, ils n'auraient pas besoin de cette richesse-là du tout, parce qu'ils ont un autre type de richesse. Une partie de la richesse à laquelle ils ont droit, parce qu'ils sont les tzadikim, mais cette richesse, normalement, elle leur est donnée que dans Olam Haba. Et on aurait pu penser qu'effectivement, ils vont déjà en avoir une partie dans Olam Hazeh qui fait que ils sont au-dessus de ces contingences matérielles, ils sont riches d'une autre manière. Il n'en est rien ici. Bon, il y a une règle qui dit que les mondes sont complètement étanches. C'est-à-dire, on n'a pas des éléments du Olam Haba dans Olam Hazeh. Et par conséquent, il faut qu'ils aient la richesse pour pouvoir faire ce qu'ils ont à faire. Donc c'est précieux, ça joue un rôle fondamental d'avoir les moyens de faire ce qu'on a à faire. Ça nécessite des moyens, et ces moyens-là, absolument nécessaires, ils justifient que les malachim, c'est-à-dire tout le système du monde, a contribué à amener les brachot chez Yaakov. Ça veut dire que c'est pas seulement ce que Rivka a fait qui a amené les brachot chez Yaakov. C'est comme si on disait, ça a l'air d'être un plan du monde que Yaakov ait de l'argent pour qu'il ait des richesses, parce qu'il a beaucoup de choses à faire, et pour le faire, il faut en avoir les moyens. Et du coup, il fallait qu'ils reçoivent les brachot, qui sont la richesse du monde. C'est-à-dire que la démarche de Rivka, elle correspond à une règle de fonctionnement du monde, pratiquement. C'est pas que elle ne voulait pas que Yaakov meure de faim, quoi. Qui serait arrivé si Esav avait eu les brachot. Et donc elle s'est débrouillée. Non, c'est pas seulement ça. Il y a quelque chose de fondamental qui est que il a besoin de la richesse. Et donc, pour qu'il l'ait, il fallait qu'il ait les brachot. Alors, ce qui est intéressant, c'est que quand il va rencontrer Et ça, il va lui dire, tu sais, les brachot, ça n'a rien servi, quoi. Tout ce que j'ai dû l'arracher, quoi. J'ai dû bosser comme un fou, jour et nuit, etc. La question, c'est, il s'est pas rendu compte que, pas simplement qu'il voulait dire, hein, il voulait seulement rassurer Essav. Mais ça veut aussi dire qu'en réalité, Jacob a dû, ça faisait partie de son travail, de bosser jour et nuit, mais même s'il avait bossé jour et nuit, si Hachem n'avait pas décidé qu'il serait riche, il ne l'aurait pas été parce que il travaillait chez Laban. Et Laban, il changeait les conditions du contrat au fur et à mesure qu'elles étaient favorables à Jacob. Donc, Yaakov lui-même le dit, si Hachem m'avait pas aidé, je me retrouverais maintenant sans un sou. Tu m'aurais tout pris. Et donc, c'est bien cette idée-là qu'à la limite, tout le travail de Yaakov, qui est un énorme travail dont dont lui-même va dire, j'ai travaillé pour toi, etc. Tout ça, c'est vrai. Mais ça n'aurait rien rapporté au total si Hachem ne l'avait pas aidé, si le monde, si Hachem n'avait pas organisé le monde de telle sorte que Yaakov soit riche. Il ne serait pas devenu par son travail. Alors, en fait, ça veut dire que Hachem a fait un miracle, la richesse de Yaakov, mais ce miracle-là, il l'a caché. Il a caché que c'était un miracle. Il a fait en sorte que les choses apparaissent comme le fruit du travail de Yaakov. Alors Yitzhak, il continue de parler à Esav, il lui dit, voilà, quelqu'un est venu et m'a donné à manger, j'ai mangé de tout. Et la question qui se pose, c'est en quoi c'est important qu'il ait mangé de tout, qu'il ait... S'il avait même mangé, il a mangé suffisamment pour pouvoir donner les bénédictions. Est-ce que ça veut dire qu'il a mangé? Pourquoi il dit qu'il a mangé de tout? En quoi est-ce important qu'il ait mangé de tout? Alors c'est énorme, parce qu'évidemment, kol, c'est beaucoup, quoi. Rabbi Yehuda et Rabbi Nechemia, Rabbi Yehuda dit, Mikol ma shenivra, je cherchais mes brichites. J'ai mangé de tout ce qui a été créé durant les 6 jours de Bereshit. Et Rabbi Nechemia dit, j'ai mangé de tous les bienfaits apprêtés pour les justes dans l'avenir. Comprends rien du tout. On vient de voir chez de Rav Papa. Il est convenu que les justes ne jouiront pas en ce monde de la splendeur du monde qui vient. Et là, Rav Nechemia, il vient dire, de tous les bienfaits apprêtés pour les justes dans l'avenir, dans le monde qui vient, donc, j'en ai mangé. Ça a l'air contradictoire. On vient de dire que on reçoit rien sur Olamaba. Alors, est-ce que ça veut dire qu'ils ne vont pas jouir de la splendeur de ce qui est yakar du monde à venir, mais qu'ils vont manger de ce qui est prévu? Ça, oui. En fait, il y a pas mal de difficultés dans ces deux paroles. Est-ce que ça veut dire qu'il a mangé de tout ce qui a été créé chez Shechet D'une certaine manière, tout ce qui a été créé dans les 6 jours de Béréchit, c'est en fait tout ce qui est nécessaire pour préparer le monde, pour aider le monde à reconnaître Hachem comme le roi du monde. C'est ça le but qui est en fait le but de l'exercice. Donc quand il dit j'ai mangé de tout, il n'a pas tout mangé, mais il a mangé de tout. Ça veut dire qu'en réalité, le Klal Israël, en fait, quand il a mangé de tout, ça veut dire quelque part que le Klal Israël, il a reçu, d'une certaine manière, à peu près un échantillon de tout ce qu'Hachem a créé pour qu'on puisse reconnaître Hachem comme le roi du monde. Donc, ça veut dire que il n'y a rien que Hachem ne nous ait donné il n'y a rien de rien ne nous manque en fait. On ne peut pas dire on n'avait pas toutes les cartes, on n'avait pas tous les éléments, on a tous les éléments, on les a depuis Yitzhak. Yitzhak a mangé de tout. Et tout ça, c'est Yaakov qui l'a amené à Yitzhak. Et ultimement, tout ça, ça a été fabriqué par Rivka. C'est-à-dire que Rivka, elle s'est débrouillée, en fait, pour mettre dans l'ascendance du clan d'Israël, dans les Avot, dans Yitzhak, de veiller à ce que tout soit là, de ce qu'on a besoin pour réussir quelque part. Et ça a été mangé. Il en a mangé de tout. Et donc, en fait, c'est comme on nous avait donné toutes les pistes qui peuvent marcher, on les a. Et on les a depuis le début. Et donc, c'est sûr qu'on peut réussir, puisque toutes les pistes qui existent, on les a. Bon, c'est à nous à veiller qu'on en fasse le bon usage, mais on a toutes les pistes. Voilà, on va s'arrêter là.
Merci, Rav.
Alors, est-ce qu'on est lundi? Alors, jeudi.